Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Nous sommes très heureux aujourd'hui de retrouver notre évêque après la pause estivale. Monseigneur Haillé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aussi en compagnie d'Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Monseigneur Haillé, dans cette émission du mois de fin septembre, début octobre, nous allons revenir sur de nombreux événements qui se sont déroulés au cours de l'été, au mois de juillet et août. Nous parlerons aussi d'un événement important pour la vie de l'Église diocésaine, c'est la réouverture du séminaire à Bayonne. Nous parlerons également du mois missionnaire avec la venue des reliques de Sainte Thérèse. Et en dernière partie, comme à l'habitude, nous annoncerons quelques événements à venir dans l'actualité, dans la vie de notre diocèse. Pour commencer, revenons sur quelques événements de cet été. Le 28 juillet dernier, votre vie a basculé, Monseigneur. Vous êtes devenu chevalier du jambon de Bayonne.
Oui, j'ai été en effet intronisé dans la confrérie, très antique et traditionnelle dans notre ville de Bayonne, du jambon de Bayonne en effet. Et au fond, ça a été pour moi l'occasion de m'insérer davantage dans la culture locale et en particulier dans ces fêtes de Bayonne auxquelles j'ai essayé aussi de participer le mieux possible.
Alors restons à Bayonne. Vous avez également présidé dans le cadre des fêtes la messe des Bandas le dimanche 1er août. Quel est le message que vous avez voulu faire passer à tous les festaires en l'église Saint-André?
Alors, il est évident que j'ai voulu souligner l'aspect très positif des fêtes de Bayonne dans l'histoire de cette fête locale, en disant certainement qu'elle permettait d'assumer deux enjeux anthropologiques qui sont ceux de la fête. Le premier étant de savoir trouver des lieux, des espaces, des temps qui nous permettent de nous mettre en marge de nos contraintes ordinaires, de notre vie quotidienne, pour reprendre souffle, pour reprendre haleine. Et je pense aussi, le deuxième enjeu, c'est l'importance de la communion, de la communauté, surtout dans un monde qui est profondément marqué par l'individualisme et que nous avons tendance à être très isolés dans nos engagements, dans nos responsabilités, dans nos épreuves. La fête, c'est le lieu du rassemblement de la communauté, qui devient source d'ailleurs de créativité, de toutes sortes d'activités ludiques, culturelles, comme la danse, le chant, et aussi l'art culinaire, puisque vous avez souligné en particulier cette importance de la confrérie du jambon de Bayonne, comme d'autres confréries au cours de ces fêtes de Bayonne. Et je pensais que c'était important de préciser qu'il y avait, pour faire la fête, quand même une raison préalable qui puisse justifier que l'on puisse faire la fête. Et je voulais rappeler qu'il ne suffisait pas d'exorciser ses angoisses, parce que ça ne pouvait qu'aggraver cette perte de repères et cette quête de sens qui marque beaucoup notre société en grand désarroi intérieur. Mais il fallait une vraie raison de faire la fête, de se réjouir. Et je pense que la foi chrétienne apporte cette vraie raison en professant sa foi dans la résurrection du Christ, qui permet de résoudre, si l'on peut dire, le problème par excellence que souvent l'on veut exorciser en faisant la fête dans notre monde d'aujourd'hui qui est sans espérance et qui est la question de la mort. Voyez. Et comme disait saint Paul, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Et c'est vrai que c'était une manière aussi de stigmatiser gentiment les débordements et les excès que la fête en général et les fêtes de Bayonne peuvent manifester.
À propos des fêtes de Bayonne, Monseigneur, vous aviez demandé cet été, au début du mois d'août en particulier, à un certain nombre de jeunes d'aller au-devant d'autres jeunes dans une démarche d'évangélisation. Et dans le même esprit, au mois d'août, à la fin du mois d'août, du 22 au 29 août, il y a eu à Biarritz le festival Annuncio, qui avait lui aussi ce souci de l'évangélisation des habitants des personnes, bien sûr, de passage pour leurs vacances à Biarritz ou dans notre diocèse. Pouvez-vous nous dire quel était pour vous, qui êtes à l'origine de ces initiatives, quel était le but recherché et dans quel esprit aussi ce festival Annuncio s'est déroulé, les retombées aussi que vous en avez eues?
Alors d'une manière générale, et en particulier pendant les fêtes de Bayonne, il me semblait très important que l'Église, en tant que porteuse d'un message de salut et d'espérance, soit vraiment présente. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi j'ai opté pour rester à Bayonne pendant les fêtes de Bayonne, même si je suis un peu au cœur de l'événement, puisque l'évêché se trouve dans la vieille ville de Bayonne, même si c'est un peu une base arrière par rapport au plus fort de la fête, qui se trouve plutôt dans le petit Bayonne ou entre la cathédrale et la Nive. Mais ça me semblait important que l'Église soit présente. Alors elle est présente de bien des manières, et depuis des années par le bar du curé, hein, qui est une pause maintenant incontournable pour beaucoup de festaires, pas seulement de chrétiens ou de catholiques. Hein, on aime s'arrêter là pour un petit peu de répit au milieu de cette foule, parfois, c'est vrai, à certaines heures titubantes, et dans un bar sans alcool, qui est un peu décalé et qui permet aussi de beaux échanges, et même pour certains d'aller plus loin dans une salle de prière où ils déposent des intentions, souvent lourdes d'ailleurs. Il y a l'adoration perpétuelle qui est située au chevet de l'église Saint-André, donc vraiment au cœur de l'événement dans le petit Bayonne, et qui n'a pas cessé pendant tout ce temps, jour et nuit. Donc je pense que c'était important que des adorateurs se soient relayés pour porter tous les gens, tous les hommes, les femmes, les jeunes qui ont participé à cette fête avec leurs angoisses, leur désir de s'amuser, leurs questionnements, etc. Et puis j'ai pensé que c'était bien aussi de susciter auprès de jeunes que j'avais rencontrés, de jeunes chrétiens, de jeunes catholiques, une démarche d'évangélisation, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de manière très paisible, en particulier des jeunes qui sont souvent un peu désœuvrés et qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils s'ennuient un peu, en tout cas dans l'après-midi, en attendant les heures chaudes de la fête, et d'aller à leur rencontre pour tout simplement témoigner un peu de leur foi. Et d'une manière générale, c'est une démarche qui a été bien reçue. Ils ont trouvé d'ailleurs les jeunes qu'ils ont rencontrés dans les rues de Bayonne extrêmement réceptifs, avec lesquels ils ont pu échanger parfois des dialogues très importants sur le sens de la vie et même des échanges de mails pour aller plus loin. Je crois que c'est une expérience qui a été réitérée, c'est vrai, au plus fort de l'été à Biarritz, hein, à la fin du mois d'août, donc à travers ce festival d'évangélisation Annuncio, qui est né il y a trois ans d'un jeune architecte parisien catholique, qui a eu l'idée de rassembler tous les jeunes qui le désiraient pour aller à la rencontre aussi, à travers une expérience d'évangélisation directe, des vacanciers, des touristes dans des lieux, en effet, où il peut y avoir de grandes concentrations, hein, d'estivants, et pour porter ce message, évidemment sans prosélytisme, c'est-à-dire sans agressivité, mais en proposant sans complexe ce message de Jésus à ceux qui le veulent, à travers la musique, à travers des témoignages assez percutants de jeunes qui ont rencontré le Christ, pour qui leur vie a basculé d'une certaine manière, et qui ont envie de le partager avec beaucoup, qui de fait finissent par être réceptifs, même si certains évidemment se détournent, ça fait partie de la règle du jeu, si je puis dire, de l'évangélisation, mais qui manifestent en effet une attente par rapport à un message de sens.
Alors Monseigneur Hayé, on en avait parlé lors de notre dernier entretien, c'est l'année Jacquère, et vous avez le 25 juillet participé à la journée inter-église avec la coopération missionnaire à Navarinx. Alors, vous avez rencontré des missionnaires venus, originaires du diocèse, mais venus de nombreux pays.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une belle initiative qui est portée par la coopération missionnaire de notre diocèse depuis des années, dans un diocèse qui, effectivement, est très marqué par cette dimension missionnaire, puisque nous avons en effet beaucoup de fils et de filles du Pays basque comme du Béarn qui sont partis au grand large pour annoncer l'Évangile, hein, dans l'épopée missionnaire qui a caractérisé l'Église de ces dernières décennies, de ces derniers siècles même. Et il y a encore aujourd'hui des missionnaires, des consacrés, des prêtres, des laïcs, hein, qui partent en coopération missionnaire, Fidei Donum, etc., dans des pays lointains. Alors là, il y avait des prêtres qui sont actuellement en mission, et des religieuses, aussi d'autres qui ont été en mission par le passé, qui ont encore un beau témoignage à donner, des jeunes coopérants aussi, hein, qui revenaient d'une mission dans tel ou tel pays d'Afrique, et ce qui permet évidemment de se rencontrer et de rencontrer une communauté chrétienne qui est aussi en état de mission, et de faire se rencontrer ces soucis de l'annonce de l'Évangile, aussi bien localement que jusqu'aux extrémités de la terre.
Le 29 juillet, vous avez présidé une célébration de profession solennelle dans un couvent de Clarisse du diocèse.
Alors c'est assez rare par les temps qui courent pour être en effet souligné. Je suis très heureux que cette communauté de Clarisse, qui a été refondée d'une certaine manière il y a un peu plus d'un an, à partir de deux communautés qui ont décidé de fusionner, si je puis dire, en tout cas de s'unir et de constituer désormais le monastère de Clarisse Notre-Dame de l'Espérance, à Orthès. Voilà. C'est beau de voir qu'il y a quelques jeunes qui sont à l'étape de la profession solennelle, et c'est quand même un beau témoignage, qui se trouvait d'ailleurs en marge des fêtes de Bayonne, et j'ai trouvé que c'était assez beau de voir que, pendant que certains cherchaient à étancher leur soif dans une eau qui ne désaltère pas vraiment et qui n'est d'ailleurs pas que de l'eau, il y en avait d'autres qui avaient trouvé cette source qui jaillit en vie éternelle et qui vaut la peine que l'on se consacre complètement à Dieu pour le service de ses frères.
Alors cet été aussi, vous avez participé dans la plus petite province du Pays Basque à une représentation théâtrale tout à fait particulière et liée à la province de la Soule.
Voilà, les fameuses pastorales qui avaient lieu cette année à Barcus, car vous savez que chaque année, c'est un village de la Soule qui représente, selon une tradition bien codifiée dans l'histoire et dans la culture de la Soule, une pastorale, alors qui mettait en scène cette fois-ci un personnage de ce village de Barcus, qui était un paysan poète, mort il y a 10 ans. Et c'était l'occasion, en relatant un petit peu sa vie, son histoire, et bien de relater aussi l'histoire locale et même l'histoire nationale, puisque nous sommes passés évidemment par l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, etc. Et ce que j'ai noté, en tout cas pour ma part, qui assistait pour la première fois à une pastorale, c'est que ça met en scène et en jeu, pendant des mois, un village tout entier, 150 acteurs, 200 personnes en plus qui s'occupent, j'allais dire, de la technique, de la logistique, etc. Et ça fait 350 villageois de Barcus, d'un village qui compte, je crois, 750 ou 800 habitants. Donc c'est quand même un événement extraordinaire de culture locale. Et je me suis dit, en voyant que toutes les générations étaient impliquées pour faire vivre, finalement, à travers cette représentation, la culture, et bien que cette culture sauvait un peuple, vous voyez, qui est fier de ses racines, qui est vraiment enraciné dans son histoire, et qui continue de rassembler dans la communion toutes les générations. Et ça, c'est vraiment porteur de sens, et ça crée une communauté. Et on voit bien d'ailleurs que la culture chrétienne est profondément imbriquée avec la culture locale, car elle est toujours effectivement présente dans ces pastorales, même si elles ont un peu évolué avec le temps.
Monseigneur, cet été, au mois d'août, vous avez passé 8 jours au Vietnam. Est-ce qu'il s'agissait simplement pour vous d'un voyage d'agrément touristique, ou est-ce qu'il y avait d'autres motivations ?
Alors non, ce n'était pas un voyage touristique. D'ailleurs, il a été très bref. Je suis resté 6 jours sur place. Quand on sait qu'il faut 24 heures pour se rendre porte à porte sur le lieu que j'allais visiter, c'était loin d'être une promenade d'agrément. Ceci dit, j'ai quand même découvert un pays géographiquement magnifique, même si c'était une période un peu chaude et moite, donc un peu difficile à supporter sur le plan climatique. Mais le but était d'aller à la rencontre d'évêques et de réalités ecclésiales qui sont liées à aussi une certaine histoire de notre diocèse, non seulement parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de Basques et aussi de Béarnais qui sont partis par les MEP, par exemple, les missions étrangères de Paris, comme missionnaires en Extrême-Orient et en particulier au Vietnam, et que notre présence y est encore dans toutes les mémoires, mais aussi parce que nous avons dans le diocèse une maison à Marciron, près de Pau, qui accueille chaque année des jeunes candidats au sacerdoce vietnamiens envoyés par leurs évêques pour apprendre le français afin de poursuivre leurs études et leur formation dans des séminaires en France, et que nous accueillons nous-mêmes dans notre séminaire un jeune en première année et un autre en propédeutique, sachant que le premier prêtre que j'ai ordonné en arrivant dans le diocèse est issu de leur rang, puisque c'est un vietnamien qui s'appelle l'abbé Jean Chin, que tout le monde connaît, et qui est, lui, incardiné dans notre diocèse. Alors je suis allé effectivement dans le diocèse d'origine de ce jeune prêtre vietnamien, qui s'appelle Thanh Hoa, hein, au sud d'Hanoï, et qui m'a permis de rencontrer l'évêque, la réalité ecclésiale, les familles de ces jeunes. Je suis allé aussi à Phat Diem, à Vinh et finalement à Hanoï, pour sentir un peu en quelques jours eh bien, l'atmosphère de cette église, le pourquoi de l'émigration de ces jeunes vers notre pays, et pour leur formation, et même souvent pour l'exercice de leur sacerdoce. Et je voulais voir quel était le lien ecclésial avec leur église d'origine. Et j'étais extrêmement impressionné par la vitalité de cette église du Vietnam, qui reste encore cantonnée dans la sphère strictement paroissiale, très vivante, mais dont la liberté religieuse est quand même assez limitée, dans un pays qui est encore tout à fait totalitaire, même si l'économie est ouverte sur le marché mondial et de type capitaliste, ce qui fait un contraste assez détonnant avec un fossé entre les pauvres et les riches qui grandit d'autant, sachant que les riches sont maintenant essentiellement les cadres du Parti communiste.
Puisque nous parlons de l'Église universelle, vous avez sans doute suivi très attentivement, Monseigneur, le tout récent voyage du pape Benoît XVI en Angleterre, au cours duquel le cardinal Newman a été béatifié. Que retenez-vous de ce voyage et de ses retombées médiatiques également ?
Alors c'est sûr que, comme souvent maintenant, la presse internationale, et en particulier européenne, nous y habitue, et il faudrait peut-être d'ailleurs pas s'y habituer, et surtout ne pas être dupe, mais comme souvent, la presse avait annoncé un voyage extrêmement difficile, un accueil houleux, l'expression d'un refus du pape et de l'Église catholique, sachant quand même que le pape allait dans un pays à majorité anglicane, hein, quand on sait les difficultés aussi que peut connaître en ce moment l'écuménisme en termes de relations entre l'Église d'Angleterre et l'Église catholique romaine, et qu'il allait aussi béatifier un converti de l'anglicanisme du mouvement d'Oxford au XIXe siècle, qui est en effet le cardinal John Henry Newman, qui est une personnalité non seulement d'Angleterre, mais de l'Église universelle, qui est un grand théologien en même temps. Ce qui se passe habituellement, c'est en effet passé, c'est qu'après avoir annoncé, comme des prophètes de mauvais augure, un voyage déplorable, les médias ont quand même été obligés de reconnaître que le peuple anglais, britannique, écossais et anglais, a accueilli très bien ce pape, qu'il a découvert comme un homme bienveillant, rempli de douceur, avec une expertise intellectuelle sur, en particulier, la place des religions dans les sociétés occidentales, tout à fait pertinente et tout à fait audible. Je crois que le discours que le pape a prononcé devant le Parlement britannique à Westminster a été particulièrement remarqué et fera date, comme le discours de Benoît XVI au Bernardin au monde de la culture lors de son voyage en France, qui est encore dans tous les esprits. Et la reine d'Angleterre, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée, qui a invité elle-même, en tant que chef de l'Église anglicane et reine d'Angleterre, le pape, donc, qui était en visite d'État, ce qui était une première, et précisément, explicitement, pour que le Saint-Père, dont il sait la stature intellectuelle, les aide dans l'analyse des défis de la société britannique actuelle. Donc je crois que c'est un succès pratiquement sur toute la ligne. J'ajouterai, pour dire un mot de la béatification du cardinal Newman, que c'est quand même un événement qui est fondamental pour l'Église universelle, en particulier à cette étape de notre histoire. Vous savez que le Saint-Père, dans un discours programme prononcé le 22 décembre 2005, quelques mois après son élection, devant la curie romaine, avait insisté sur la réception du Concile Vatican II selon une herméneutique de la réforme ou du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église, par opposition à une herméneutique de la rupture qui a pu séduire beaucoup dans les années post-conciliaires. Et le cardinal Newman, qui est le théologien précisément du développement homogène du dogme catholique, est certainement une figure qui apporte, si vous voulez, une assise intellectuelle à cette herméneutique de la continuité.
Juste un petit mot par rapport à ces messes payantes en Angleterre, justement à l'occasion de la venue du pape. Ça peut choquer même des catholiques.
En effet, hein, vous savez que face à quelques lobbies qui se sont avérés minoritaires, mais qui ont en tout cas toujours pignon sur rue, et en particulier grâce à l'orchestration des médias, de lobbies anti-catholiques, le gouvernement britannique a un peu reculé devant un financement massif de cette visite pourtant d'État, et ce qui a obligé visiblement l'Église catholique en Angleterre à demander une plus grande participation aux fidèles. Ça peut en effet se discuter, mais en tout cas c'est un choix qui avait été pris par l'Église locale et certainement pas par le Saint-Père.
Alors Monseigneur Hayé, venons-en à la vie de notre diocèse. Le 11 septembre dernier, c'était un événement à l'église Saint-Amand de Bayonne. Vous avez présidé la messe de rentrée du séminaire et la messe de la réouverture du séminaire.
Voilà, alors donc c'est un événement bien sûr, hein, et ça n'est pas sans émotion que au cours de cette messe qui a quand même attiré pas mal de fidèles, l'église Saint-Amand était quasiment pleine, j'ai pu lire ce décret de création du séminaire des 5 heures de Jésus de Marie de Bayonne pour accueillir en première année 5 jeunes, dont 4 avaient accompli l'année de propédeutique que nous avions ouverte l'an dernier, et 4 séminaristes qui sont accueillis en paroisse en stage de discernement avant de poursuivre leur formation généralement au second cycle, et enfin 2 jeunes qui ont rejoint l'année de propédeutique.
Concrètement, Monseigneur, parce que c'est la question que se posent les diocésains, qui est vraiment du diocèse dans ce séminaire?
Alors, parmi ces séminaristes, nous avons en effet une ouverture sur l'Église universelle par la présence de 2 Vietnamiens et d'un Camerounais, qui lui est en stage en paroisse, en fin de parcours. Nous avons 2 ressortissants d'autres régions. Mais pour les autres, ils sont du diocèse de 2 manières, ou bien par leur enracinement familial, ou bien par le travail. Et je crois que ça, c'est quand même une bonne chose, parce que la majeure partie donc, de nos séminaristes aujourd'hui sont vraiment du diocèse ou ont un attachement au diocèse, ce qui fait que s'ils ont fait leurs études ailleurs, eh bien, ils ont vraiment opté, en raison de leur enracinement familial, pour le diocèse de Bayonne. Ceci dit, je crois que nous sommes dans un monde de la mobilité, hein, où l'ouverture du fait de cette mobilité souvent professionnelle ou estudiantine sur les autres et sur l'extérieur est forcément plus importante qu'auparavant. Mais il reste vrai que si j'accueillerais, et je pense que nous accueillerons, des jeunes qui pourraient frapper à la porte du diocèse à condition qu'ils optent pour le diocèse de Bayonne, tout en étant
d'autres... Ça veut dire qu'après, ils deviendront prêtres diocésains.
Ah, mais bien sûr. Hein, ils sont rentrés au séminaire pour être prêtres diocésains de Bayonne. C'est pourquoi, pour moi, c'est très important que le séminaire se situe dans le diocèse, pour être vraiment au contact de la réalité diocésaine, et que pour ceux qui viendraient d'ailleurs, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité, hein, mais pour ceux qui viendraient d'ailleurs, ils puissent vraiment s'enraciner dans l'église locale. Je précise aussitôt que pour moi, ce qui est le plus important, c'est que nos communautés chrétiennes, nos communautés paroissiales et nos familles qui présentent dans le diocèse puissent en effet générer les vocations pour notre diocèse. Ça reste évidemment l'option principale. Et là, j'appelle évidemment les prêtres, les fidèles dans les paroisses à se mobiliser pour que des jeunes de leur village, comme ça a été tellement le cas dans l'histoire de notre diocèse, de leur mouvement, puissent rejoindre le séminaire et entendre cet appel à devenir prêtre.
Alors pour vous, le séminaire diocésain, c'est vraiment un levier, un outil, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas un levier important pour la pastorale que vous voulez mettre en œuvre dans le diocèse, la pastorale missionnaire.
Alors certainement d'abord pour la pastorale des vocations, par la visibilité hein, du séminaire et donc des séminaristes dans la réalité diocésaine actuelle, et certainement aussi dans la manière de la formation qui leur sera proposée, qu'elle soit vraiment orientée vers cet enjeu proprement missionnaire qui caractérise notre époque et que le pape Jean-Paul II a appelé, et Benoît XVI à sa suite, l'enjeu de la nouvelle évangélisation.
Monseigneur Haillé, vous poursuivez les visites pastorales dans les paroisses. Vous étiez très récemment sur la rive droite de Bayonne. On vous a vu d'ailleurs en photo dans le journal Sud-Ouest avec deux des prêtres de cette paroisse. En quelques mots, quel est le ressenti de cette visite pastorale? Qu'est-ce que vous avez peut-être découvert?
Alors, comme toujours, ces visites pastorales me permettent, comme vous dites, de découvrir en profondeur la réalité d'une paroisse. La réalité d'une paroisse, à la fois d'une communauté chrétienne, engagée sur les différents secteurs de la vie pastorale, et aussi le terreau humain dans lequel cette communauté est insérée et accomplit sa mission. Alors, c'est sûr que j'ai découvert beaucoup de mobilisation, beaucoup d'engagement au service de l'Église et au service du monde. Et ce que j'ai découvert, d'une certaine manière, et avec beaucoup de joie, c'est en particulier l'engagement des fidèles et de la communauté de manière générale au service des situations plus difficiles vécues par les hommes et les femmes qui habitent souvent ces quartiers très diversifiés, mais je pense en particulier au Haut-de-Sainte-Croix, la fameuse résidence Breuer, que l'on appelait encore il y a peu de temps la ZUP, et aussi à Boucau, où on connaît quand même des situations de précarité, de pauvreté, des situations aussi, j'allais dire, de déracinement. Il y a quand même un certain nombre de migrants, d'immigrés qui font de ce quartier un quartier assez multiculturel, parfois même multireligieux, et où je crois que la communauté est très impliquée avec beaucoup d'autres acteurs sociaux ou de la vie civile, associations caritatives ou non, est très impliquée pour essayer de venir en aide à ces premières nécessités en termes de logement, d'alphabétisation, d'urgence face à telle ou telle situation de précarité. Et j'ai vu donc cette générosité. Et j'étais très heureux de pouvoir en même temps être dans l'action de grâce par rapport à cette mobilisation au service de la vie des hommes et en même temps d'encourager à aller jusqu'au bout du service que nous devons aux hommes d'aujourd'hui à travers une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus, comme le disait le pape Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, que j'ai un peu laissé comme, j'allais dire, comme testament, si je puis dire, de cette visite à la communauté chrétienne de Saint-Vincent-de-Paul.
À propos du diocèse, pouvez-vous, Monseigneur, nous dire comment se déroule les installations d'un certain nombre de curés dans leur nouvelle paroisse depuis la rentrée?
Alors donc, les curés sont installés généralement ou bien par l'évêque ou bien par un délégué de l'évêque, généralement le vicaire général ou un vicaire épiscopal, et consiste donc dans une présentation de ce nouveau curé à sa nouvelle communauté paroissiale et inversement d'une présentation de la communauté par un membre du conseil pastoral généralement au nouveau curé. Et ensuite, c'est l'occasion, à travers un rituel qui a été codifié dans le diocèse, par exemple, le nouveau curé proclame l'évangile, porte l'évangéliaire aux quatre coins cardinaux pour manifester que l'évangile est annoncé à tous les hommes jusqu'aux extrémités de la terre et pas seulement jusqu'aux extrémités des murs de l'église dans laquelle il rassemble la communauté, où il est appelé à faire sa profession de foi solennelle devant l'assemblée, où l'évêque ou son délégué va le conduire sur les trois lieux sacramentels principaux de son ministère pastoral, la fontaine baptismale, le lieu de la pénitence et de la réconciliation, le tabernacle, et où l'on va essayer de souligner le rôle du prêtre, du pasteur, à travers ces trois gestes de salut par lesquels il rend présent le Christ bon pasteur de son troupeau, que sont l'enseignement, la sanctification par les sacrements et le gouvernement, c'est-à-dire la conduite de la communauté. Et puis, c'est l'occasion aussi de rappeler aux prêtres que les fidèles participent pleinement à sa mission, de manière à travers la triple fonction prophétique, sacerdotale et royale, hein, auquel ils participent par leur baptême et leur confirmation, et de rappeler aussi à la communauté en son entier, à commencer par les fidèles laïcs, de l'importance d'annoncer l'évangile dans le monde dans lequel ils sont insérés, que ce soit dans la famille, le travail, la vie associative sous toutes ses formes.
Tout récemment a eu lieu également, comme tous les ans, le pèlerinage diocésain à Lourdes, et vous étiez présent sur place. C'est également un temps fort pour l'hospitalité basco-béarnaise. Là aussi, comment vivez-vous ce moment du pèlerinage diocésain et du pèlerinage de l'HBB, hospitalité basco-béarnaise, et aussi l'implication de ces jeunes qui sont très nombreux en fait, à s'engager pendant ces quelques jours à Lourdes?
Alors, comme je l'ai dit au terme de ce pèlerinage auquel j'ai participé, évidemment, complètement, l'HBB, l'hospitalité basco-béarnaise, est vraiment l'un des fleurons, j'allais dire, l'une des fiertés et l'une des gloires du diocèse de Bayonne-Lescarolles-Oloron, quand on voit la mobilisation joyeuse de tous ces hospitaliers chevronnés, et en particulier cette capacité d'intégrer chaque année quasiment 200 jeunes lycéens en terminale dans des établissements d'enseignement catholique, et même pour quelques-uns de l'enseignement public. Et ça, c'est magnifique de voir cette expérience spirituelle, non seulement de don de soi aux autres, mais en même temps de découverte, à travers les malades d'ailleurs, et leur propre attachement à ce lieu qui est lourd, hein, la grotte, l'Eucharistie, les piscines, le chapelet, etc. L'expérience spirituelle qui est faite par ces jeunes à Lourdes, c'est vraiment... pour moi, une source d'une grande joie et d'une grande espérance aussi pour notre Église diocésaine.
Au mois d'octobre, chaque année, cette année ce sera du 17 au 24 octobre, il y aura la Semaine missionnaire mondiale. Cette année, le thème, c'est « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». C'est certainement une phrase qui peut s'appliquer à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous avez voulu accueillir, j'allais dire, d'une manière très solennelle dans le diocèse pendant un mois. Alors, d'abord, pouvez-vous nous dire en quoi consiste cet accueil des reliques de Sainte Thérèse?
Voilà, nous allons accueillir en effet les reliques de Sainte Thérèse qui ont parcouru le monde depuis un certain nombre d'années et rassemblé des foules de manière d'ailleurs souvent inattendue dans des lieux où on était loin certainement de cette démarche chrétienne et même dévotionnelle. Alors, bien évidemment, les reliques sont là seulement pour nous relier hein, à la personne d'un saint qui actuellement est au moins en son âme dans la gloire du ciel et intercède pour nous avec tous les saints autour de Jésus ressuscité et de la Vierge Marie. Il ne s'agit pas d'adorer les reliques, d'ailleurs on parle de vénération. C'est l'occasion simplement à travers le respect que l'on doit à ces restes, puisque reliques ça veut dire les restes, de quelqu'un qui a été profondément... qui a profondément sanctifié sa vie, en laissant des œuvres d'ailleurs souvent prodigieuses, là où il a vécu. Et donc c'est une manière, si vous voulez, à travers ses restes, eh bien, de se relier à son message, à son intercession, et peut-être aussi à sa sainteté pour éveiller dans notre cœur un plus grand désir de sainteté nous-mêmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette petite carmélite normande qui n'a pas quitté son cloître pendant sa très courte vie d'ailleurs, où elle s'est engagée complètement et consacrée dans une vie tout à fait contemplative, nourrissait dans son cœur un désir missionnaire. Et elle aurait voulu parcourir le monde pour annoncer Jésus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle avait été décrétée par le pape Pie XI patronne des missions, tout en étant restée enfermée dans son cloître. Voyez, parce qu'elle avait découvert que la source de la mission, la source de l'activité apostolique de l'Église, eh bien, c'est évidemment la prière et l'amour que nous avons dans le cœur et que Jésus nous communique dans l'intimité d'une vie contemplative. Alors c'est magnifique qu'elle qui voulait parcourir le monde, eh bien, de fait, après sa mort, par ses reliques, son message a parcouru le monde. Et je crois que c'est important pendant cette semaine, ce mois missionnaire, qui est le mois d'octobre, qui encadre cette semaine missionnaire que nous célébrons avec la coopération missionnaire, comme tous les ans, en une étape où nous voulons nous relancer dans la mission d'annoncer l'Évangile à frais nouveaux dans notre monde sécularisé d'aujourd'hui, je trouve que c'était important de l'appeler à la rescousse.
Je me fais l'écho d'une question qu'on m'a posée, que j'ai trouvée moi-même un peu morbide, mais je vous la pose. Quels sont les restes de Sainte Thérèse qui vont venir dans notre diocèse? On me l'a posé lors d'une réunion en paroisse, et j'avoue que j'étais incapable de répondre, et d'ailleurs jamais j'aurais pensé à cette question. Ce qui prouve bien peut-être que dans l'esprit de même de certains paroissiens, de certains catholiques, il peut y avoir un peu de superstition derrière tout ça. Voilà. Donc, ce serait bien que vous nous éclairiez un peu.
Alors, j'invite là d'autant plus les personnes à venir pour se renseigner précisément sur la partie du corps qui a été là conservée dans ce reliquaire que nous recevons. Je crois qu'il y a deux grands reliquaires qui parcourent le monde actuellement. Mais je ne saurais pas dire précisément. C'est peut-être une vertèbre, si je me souviens bien. Mais qu'importe. Vous voyez, il ne faut pas rester dans le morbide et surtout pas dans la superstition, comme je le répète. Les restes qui sont vénérés, vous savez, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des religions et dans l'histoire de l'Église, on a toujours eu beaucoup de respect pour les restes, tout simplement parce que nous avons conscience, quant à nous, que le corps fait partie de la personne et que si nous mourons, qui est une violence qui est faite à l'homme à cause du péché originel, nous sommes voués à la résurrection et que si notre âme est immortel et l'âme des saints est déjà dans la gloire de Dieu, nous serons en attente de la résurrection finale et d'être réintégrés dans l'intégrité de notre personne, même si c'est d'une manière plus spirituelle que physique, bien entendu. Et c'est pourquoi on a toujours eu dans l'Église un respect de la dépouille mortelle, des restes, hein, et c'est pourquoi il est toujours recommandé d'être inhumé de la manière traditionnelle, c'est-à-dire mis en terre, comme le Christ, revenant à la poussière de manière naturelle, plutôt que d'être incinéré, même si l'Église aujourd'hui tolère l'incinération pour des raisons qui peuvent se comprendre, ou bien d'hygiène, ou bien de praticité, même si elle continue de recommander plutôt la manière traditionnelle qu'est celle du Christ. Et donc on va se recueillir sur la tombe de ces défunts, justement parce que ce reste caché sous la tombe nous relie, hein, à l'âme de nos défunts, à la vie de nos défunts, qui évidemment n'est plus dans ses restes.
C'est la communion des saints aussi.
Voilà, c'est la communion des saints. Alors c'est pourquoi on vénère d'autant plus les restes de quelqu'un qui est sanctifié, parce qu'elle nous permet, dans notre conception anthropologique, profondément psychophysique, si vous voulez, à travers des signes, mais qui ne sont que des signes, précisément pour signifier quelque chose de d'autre, qui est plus spirituel, eh bien de nous relier à la vie, au message et à l'intercession des saints du ciel.
Alors vous attendez de ce mois d'octobre en mission avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vraiment un élan missionnaire pour notre diocèse. Et d'ailleurs cet élan, il va être quelque peu, j'allais dire, alimenté par à la fois la venue d'une nouvelle communauté, vous allez peut-être nous la présenter et nous dire pourquoi vous la faites venir dans notre diocèse, et puis également la préparation des GMJ de Madrid qui se dérouleront en août 2011.
Voilà, alors donc, petite communauté tout à fait modeste, qui s'appelle Palavra Viva, c'est du portugais puisqu'elle vient du Brésil, qui veut dire donc parole vivante, hein, qui a pour but, pour charisme d'évangéliser par des moyens un peu nouveaux, à travers essentiellement des missions en paroisse, hein, relouquant d'une certaine manière les missions populaires anciennes qui retrouvent d'ailleurs droit de cité dans de nombreux diocèses en France aujourd'hui et qui ont toujours été encore relayées par des congrégations traditionnelles comme les lazaristes, comme les franciscains, etc. Et le but, c'est d'accueillir finalement une petite communauté de jeunes laïcs consacrés qui manifestent déjà par le choix de se consacrer au Seigneur et l'évangélisation, de traverser l'océan, de quitter son pays pour venir dans nos pays de vieille chrétienté, eh bien un témoignage de foi qui parle de lui-même et qui pourra aider, parce que c'est le but, c'est seulement d'aider, hein, d'apporter une aide, une petite collaboration très humble et très modeste à telle ou telle paroisse, telle ou telle communauté paroissiale qui sera désireuse de les accueillir pour les aider dans telle mission d'évangélisation ici ou là. Et les JMJ, c'est évidemment, nous serons toute cette année, nous allons vivre sous le signe des JMJ, puisque vous savez que nous sommes diocèse d'accueil, qui est le seul diocèse avec Gibraltar, autre que les diocèses espagnols, à accueillir des groupes de jeunes étrangers pour la semaine qui précède la semaine proprement dite des Journées mondiales de jeunesse à Madrid cette année, donc en août 2011. Et donc toute l'année, les jeunes et les moins jeunes vont se mobiliser, non seulement pour préparer cet accueil de groupes étrangers d'entre diocèses, du 11 au 15 août 2011, et pour ensuite partir avec eux à la rencontre du Saint-Père et des jeunes du monde entier qui vont se presser à Madrid en nombre conséquent pour ce temps fort spirituel.
Monseigneur, l'actualité politique, sociale de ces dernières semaines est très riche. Pourrions-nous revenir quelques instants sur un communiqué de la fin du mois de juillet dans lequel vous parler de dérive, hein, où vous dénoncez une certaine dérive de la politique de la santé publique en France. Qu'est-ce que vous avez souhaité faire passer comme message ?
J'ai voulu d'abord manifester d'une manière publique un étonnement, une surprise et une inquiétude qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est certainement celle de nombreux catholiques engagés dans le domaine sanitaire en particulier et de professionnels de santé en très, très spécialement. Par rapport à certains effets d'annonce de Mme Roselyne Bachelot, mais en tant que ministre de la Santé, il ne s'agit pas évidemment d'attenter à sa personne. Mais en tant que ministre de la Santé, à ce qualité, elle a quand même eu des déclarations assez inquiétantes devant le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat, concernant d'abord la promotion de l'avortement en France, qu'elle représente comme une des priorités de la politique de santé publique dans notre pays, et où elle va jusqu'à dire qu'elle évaluera l'action des agences régionales de santé à la capacité de proposer l'avortement comme une offre de soins. Inutile de vous dire qu'évidemment, pour moi, c'est une surprise et une inquiétude que de penser que l'avortement, quoi qu'on puisse en penser, soit présenté comme une offre de soins par rapport à une maladie que, visiblement, serait la grossesse. Jusqu'à dire que la manière de présenter l'avortement comme un mal nécessaire, c'était en tout cas le discours de Mme Simone Veil au moment de la promulgation de la loi dépénalisant l'avortement en 1975, n'était pas une expression adéquate et qu'elle préférait dire que c'était au fond un grand bien, une grande victoire pour les femmes. Elle ajoutait à cela dans ses déclarations un certain nombre d'annonces concernant des salles d'injection supervisées qui, d'une certaine manière, sont un pas vers la dépénalisation de la toxicomanie qui est un peu en contradiction avec une politique de prévention actuellement en cours dans notre pays, qui porte d'ailleurs des fruits et qui est plutôt placée sous le signe de la pénalisation de la toxicomanie. Alors c'est vrai que tout ça n'est pas sans poser de questions, et l'homme d'église que je suis, qui doit exercer une sollicitude pastorale dans son diocèse, pour informer, parfois pour éveiller les consciences, eh bien s'est senti pressé d'exprimer un peu son avis sur cette question et de manifester un certain nombre de craintes par rapport à la politique de santé publique en France.
Beaucoup de vos confrères évêques ont pris position tout au long du mois d'août en particulier pour protester contre les expulsions de Rome ou pour regretter en tout cas la stigmatisation dont les Roms et même les gens du voyage paraissaient être victimes. Personnellement, vous n'avez pas pris position?
Alors je n'ai pas pris position d'abord parce que c'est un moment en effet où j'étais absent du diocèse, ce qui m'arrive peu pour un temps de répit, et aussi parce que le président de la commission épiscopale des migrants et l'évêque accompagnateur de la pastorale des gens du voyage ont émis eux-mêmes un communiqué auquel je renvoyais volontiers tous ceux qui me demandaient d'intervenir, parce que je pense que, comme l'a souligné le canal 23 lui-même après avoir rencontré le ministre de l'Intérieur, M. Brice Hortefeux, il est préférable, sur des questions, quand on doit parler de manière à un niveau national, parce que là, je ne pense pas avoir eu besoin d'intervenir au niveau diocésain, car il n'y a pas eu d'expulsion de camp de Rome dans mon département, dans notre diocèse. Je crois qu'il est préférable de concerter la communication dans ce domaine. Et je crois aussi que dans l'enthousiasme pour ce qui est tout à fait légitime et qui est vraiment le rôle de l'Église, défendre la dignité de la personne humaine sans aucune discrimination et de toute personne, et même des immigrés sans papier, donc en situation illégale, doivent être considérés profondément comme des personnes, hein, selon leur dignité. Je crois qu'il y a pu aussi avoir quelques récupérations médiatiques, politiques, quelques imprudences dans certaines de nos déclarations auxquelles je n'ai pas voulu ajouter.
Concernant le Pays Basque, l'actualité est relativement récente au Pays Basque, de part et d'autre des Pyrénées. Il y a maintenant peut-être une dizaine ou une quinzaine de jours, une annonce par l'ETA d'une volonté de cesser le feu. Comment réagissez-vous par rapport à cette annonce, par rapport à cet événement ?
Alors même si l'ETA concerne davantage la partie du Pays Basque du Sud, hein, que la partie du Pays Basque du Nord dans laquelle nous nous trouvons quant à nous, nous sommes évidemment tout à fait solidaires de cette réalité. Et je reprendrai tout simplement ce que mes confrères d'outre-Pyrénées ont pu déclarer à la suite de cette annonce, que ce soit Mgr Mounia de Saint-Sébastien, que ce soit Mgr Iseta qui vient d'être nommé évêque titulaire donc de Bilbao. J'accueille bien entendu moi aussi, comme eux, cette annonce avec prudence, mais comme un pas en effet positif vers la dissolution et la disparition de l'ETA, qui reste évidemment dans l'histoire récente liée à la violence et au terrorisme, quelle que soit la légitimité que peut porter des revendications qu'il peut porter.
Monseigneur Ayer, nous avons parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous allons conclure cette émission en donnant à ceux qui nous écoutent quelques rendez-vous à venir. Et peut-être déjà, vous voulez annoncer un grand événement qui aura lieu à la Pentecôte l'an prochain.
Voilà, nous avons voulu promouvoir un événement diocésain un peu nouveau, qui aurait donc lieu à la Pentecôte 2011, le dimanche 12 juin, intitulé « Famille en fête », qui aura pour but, autour du thème de la famille, qui reste quand même, j'allais dire, le creuset de la vie sociale et ecclésiale, en étant la cellule de base hein, de la société comme de l'Église, en se rassemblant autour de ce thème de la famille, eh bien, rassembler, c'est qu'à le dire, la famille diocésaine, hein, et avoir ainsi un lieu de visibilité de notre église de Bayonne-Lescarrieux-Luron, festive hein, et spirituelle aussi, parce que ce sera l'occasion de procéder, comme chaque année à la Pentecôte, à la confirmation des adultes qui s'y préparent pendant toute cette année, et donc avec une dimension et missionnaire évidente.
Alors, Mgr Ayer, dans l'agenda plus proche de nous, on en a parlé, donc il y aura dans de nombreuses paroisses, dans les cathédrales du diocèse, donc l'avenue des reliques de Sainte Thérèse. Le 10 octobre, ce sera la fête de la dédicace à la cathédrale de Bayonne, c'est un dimanche.
Voilà.
Et puis, vous allez également aller à Bordeaux ce même dimanche, le 10.
Voilà, pour faire mes adieux avec mes confrères, je pense, à Mgr Jacques Blacard, qui est nommé évêque d'Orléans, comme vous le savez, et qui présidera donc une messe d'au revoir dans la cathédrale de Bordeaux ce même jour.
Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, vous irez aussi à l'accueil de Mgr Iseta à Bilbao.
Oui, tout à fait, parce que j'ai tout à fait conscience de faire partie des évêques du Pays Basque, et d'ailleurs nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, et nous avons bien l'intention chaque année de nous retrouver pour disserter aussi de nos préoccupations pastorales communes.
Voilà, donc ça, ce sera le lundi 11 octobre. Et puis le 24 octobre, donc vous serez à l'ESCAR pour conclure la mission avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous présiderez les Vêpres à la cathédrale de l'Escara, c'est à 16h l'après-midi.
Voilà.
Et puis, le grand rendez-vous des évêques à Lourdes pour l'Assemblée plénière, ce sera du...
Eh bien, du 4 au, au 9 novembre, ou 8 novembre, voilà. Oui, voilà, tout à fait.
Voilà. Donc voilà pour les principaux rendez-vous dans votre agenda et dans l'agenda du diocèse. Alors pour terminer, vous nous avez laissé entendre que vous étiez absent un peu du diocèse, notamment en août. Êtes-vous parti en vacances ? Avez-vous pris des vacances ?
Et voilà, justement, je ne savais pas s'il fallait que j'en prenne parce que je suis quand même engagé dans une mission qui me sollicite beaucoup. Mais entendant le Saint-Père au jour de la rencontre internationale des prêtres, pour la clôture d'un nécessaire d'autel, dire aux prêtres « Ayez le courage et l'humilité de vous reposer », j'ai capitulé et je suis donc parti en effet vers la fin du mois d'août, une dizaine de jours en repos dans ma famille.
Pour conclure tout à fait, peut-être une phrase ou une citation d'un poème de Sainte Thérèse que vous aimez particulièrement.
Oh ben, je dirais la phrase qui me revient tout de suite, c'est « Au cœur de l'Église, je serai l'amour ». Et je crois que c'est tout le sens aussi de sa venue dans notre diocèse et où on trouve eh bien, le fondement même de la mission.
Merci beaucoup, Mgr Hayé, et merci à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
C'était l'entretien du mois avec notre évêque, Mgr Marc Hayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien sur notre site internet www.lapourdi.net.